Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour, peuple de Prune, et bienvenue dans cette nouvelle émission des arpètes.
Les arpètes, c'est quoi ? C'est Enora et Lilia, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi ? Et non, c'est pas du tout une chanson d'Oldelaf. Dans cette émission, on met en pratique le principe de l'arpentage, une technique d'éducation populaire pour découvrir ensemble un livre qu'on aura partagé en pages égales entre participantes et participants et dont on vous fait la restitution à l'antenne. Ça nous permet de construire ensemble un savoir commun et pour celles qui n'arrivaient pas à se mettre à cet essai dont vous entendiez parler depuis super longtemps, bah c'est l'émission parfaite. Avant de commencer, je voulais juste vous partager une chouette illustration. Je suis partie quelques jours en vacances au Portugal et j'ai visité la bibliothèque de la plus vieille université du pays à Coimbra. C'est une bibliothèque du 18e qui sent bon le vieux papier et la poussière. Mais pourquoi je vous ennuie avec mes souvenirs de vacances, me diriez-vous ? Parce que sur le fronton de la porte de cette bibliothèque était écrite une phrase en latin qui disait « Attends, Enora, tu veux bien imiter un vieillard barbu avec ta voix d'outre-tombe ?»
Utilisez les livres comme des armes pour atteindre le savoir.
C'était parfait, merci. J'aime beaucoup cette phrase en vrai, parce qu'elle représente très bien pour moi le concept de l'arpentage. Autour de cette table et de l'autre côté de votre poste, on s'arme ensemble pour mieux comprendre le monde et renforcer nos luttes.
Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va aller comprendre le monde du côté d'une réalité qui n'est pas du tout la nôtre. On avait très envie d'aborder le sujet du handicap parce qu'en tant que personnes valides, qui n'avons pas de personnes en situation de handicap dans notre entourage, ce sont des questions qu'on connaît très peu et dans lesquelles on avait envie de se plonger pour y porter un nouveau regard plus conscient et mieux informé. Pour nous, c'est carrément ça aussi l'objectif de cette émission, explorer des réalités qu'on ne connaît pas pour bousculer nos préjugés, notre rapport au monde et aux gens qui vivent autour de nous.
Avant de commencer, on fait juste un petit point lexique et vocabulaire. On va probablement mentionner la notion de validisme au cours de l'émission. On voudrait donc vous préciser ce que c'est avant de commencer. Donc le validisme, c'est le nom donné aux formes de domination, discrimination et préjugés à l'encontre des personnes handicapées. C'est l'idée qu'une personne valide représente la norme sociale et donc l'idéal à atteindre. Et cela revient à vouloir gommer les différences des personnes handicapées, les empêcher d'avoir accès à leurs droits et refuser d'adapter la société, les infrastructures, etc. à leurs particularités et leurs réalités.
Et on est en très bonne compagnie pour aborder ce sujet aujourd'hui puisque nous avons deux invités. Avec nous donc Guillaume Brochet. Guillaume, arrête-moi si je me trompe, tu es coordinateur et responsable du festival Handiclap, créé en 1987 par l'APAGE 44 qui est l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. Cette asso, elle promeut la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, intervient auprès des pouvoirs publics pour œuvrer au développement d'une société inclusive et des moyens d'accompagnement. Donc toi, ton créneau, c'est plutôt de travailler à l'inclusivité dans le milieu de la culture. Salut Guillaume.
Bonjour, oui, c'est ça, tout à fait, dans les grandes lignes. Oui.
T'as un petit mot à rajouter sur cette présentation express ?
Non, je crois qu'à la fin, on aura l'occasion de revenir rapidement sur le festival.
Ouais, bon, carrément.
Bah, je me garde pour la fin.
Ok. Nous accueillerons également Cécile Morin dans la partie interview. Elle est porte-parole du collectif CLÉ. Donc le CLÉ, c'est l'acronyme de Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et donc on vous laissera aussi la parole à la fin des arpentages et donc pour la partie interview. Et on présente tout de suite le bouquin qu'on a choisi d'arpenter ce mois-ci. Mais juste avant, on fait un petit break en musique avec le morceau Cheeseburger Family de Jack Stauber's Micropop.
Bye.
Les Arpètes sur Prune 92 FM. C'était Cheeseburger Family de Jack Stauber. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du livre qu'on a choisi d'arpenter pour cette deuxième émission. Il s'agit du livre Handicap à vendre de Thibaut Petit. C'est une enquête de terrain sur le travail en ESAT. C'est l'acronyme pour Établissement et Services d'aide par le travail. Les ESAT, ce sont donc des structures médico-sociales créées pour offrir aux personnes handicapées une activité professionnelle adaptée à leur invalidité et un soutien médico-social. Enfin, tout ça, c'est en théorie, mais on y reviendra plus tard. Ce livre, il est hyper récent, puisqu'il est parti, il est paru en 2022 aux éditions Les Arènes. Son auteur, Thibaut Petit, est journaliste indépendant, et pour publier cet ouvrage, il a enquêté pendant 6 ans sur les ESAT. Il a recueilli de nombreux témoignages qui rendent cet essai très riche et vivant, mais toujours avec un petit fond de cynisme quand même, comme l'annonce sa quatrième de couverture, un peu grinçante. Je vous en lis un bout, ça commence comme ça. Connaît-on les travailleurs handicapés? Les écoute-t-on? Leur donne-t-on la parole? Le handicap, c'est comme le show de Bruxelles. On n'aime pas trop, mais on en prend de temps en temps pour se donner bonne conscience. Je trouve que ça annonce plutôt bien les couleurs. Son ouvrage a pour but de donner la parole à une frange de la population largement invisibilisée dans les médias et dénoncer l'inclusion de façades forgées par de beaux éléments de langage distillés dans les discours de nos dirigeants et dirigeantes. Thibaut Petit nous fait entrer dans les ateliers et usines des ESAT et nous met face à la réalité des conditions de travail et de l'instrumentalisation des travailleurs et travailleuses en situation de handicap. Il démonte pièce par pièce l'image de structure adaptée et protectrice qu'on peut avoir de ces établissements. On découvre que plutôt que d'œuvrer pour l'inclusion et l'insertion professionnelle, ces structures participent à organiser la discrimination au travail des personnes en situation de handicap. C'est un beau livre en plus, avec une couverture veloutée, une tranche rouge, assortie au pull de Ludovic Houël, maraîcher en ESAT, qui est en photo sur la couverture. Ça nous a fait encore plus mal au cœur de le déchirer pour se répartir la lecture. Mais c'est pour la bonne cause. Alors Lilia, c'est toi qui avais les 60 premières pages. Je te laisse nous immerger dans l'enquête de Thibaut Petit.
Oui, on a échangé, cette fois-ci je lisais la première partie du livre, donc bon, assez classique en soi comme approche de la lecture, sauf que je comprends beaucoup mieux maintenant ta frustration, Enora, parce que j'avais envie de pouvoir lire la suite tout de suite. Et ce livre est passionnant et très critique. Le journaliste, il est sympa parce que dans l'intro, il nous montre qu'il était aussi une arpette ignorante quand il a découvert les ESAT pour la première fois. On retrouve la même naïveté que celle que j'avais avant de lire le livre. Je peux vous dire que maintenant, je suis plutôt en mode lance-flamme. Bon, là, je vous parle de mes impressions, mais vous ne savez pas encore ce qui m'a fait sauter au plafond. Alors, on commence. Voici un extrait d'annonce qu'un patron d'ESAT a envoyé à ses clients potentiels. Plus de 175 travailleurs handicapés sont prêts à répondre à vos besoins à un coût défiant l'externalisation tout en vous permettant de réduire votre taxe AGFIP. Leurs différences, leurs petits défauts sont bien souvent dans le domaine du travail de sous-traitance un réel avantage. Resteriez-vous 7 heures par jour à trier des vis? Oui. Ne déviez-vous jamais du travail fixé par votre chef? Non. Ça va, pas trop la nausée? Soufflez un peu, on va décortiquer ça ensemble. Un ESAT, comme on l'a dit, c'est une structure médico-sociale créée par l'État pour permettre l'insertion par le travail de personnes handicapées. On voit dès cette annonce que les gens y font des travaux de sous-traitance très répétitifs et peu gratifiants. Et vous aussi, vous avez tiqué sur le coût ultra compétitif de la main-d'œuvre. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien parce que déjà, ces travailleurs et travailleuses n'en sont pas vraiment, et c'est le cœur du scandale. Ce sont des usagers de la structure, c'est-à-dire qu'ils et elles ne sont pas salariés, ne dépendent pas du code du travail et ne reçoivent qu'une faible rémunération. Il existe en France 120 000 usagers répartis dans 1400 ESAT. Ils sont rémunérés en moyenne à la moitié d'un SMIC, donc un peu moins de 700 euros, pour 35 heures par semaine. C'est déjà la critique que fait le titre du livre « Handicap à vendre », dans laquelle on retrouve le côté « réclame » pour mettre en avant l'intérêt d'un tel système pour les entreprises ayant recours aux ESAT, de la main-d'œuvre peu chère, docile et invisible. Bon, je vais arrêter d'utiliser le terme « usager » parce que je trouve ce terme atroce vu la réalité. Je vais plutôt parler de travailleurs et travailleuses. Et le deuxième point de scandale arrive. L'annonce parle de « petits défauts ». On va pas s'apesantir sur les termes qui sont déjà hyper problématiques. Ça sous-entend surtout qu'une sélection a été opérée dans les types de handicap pour ne garder que les travailleurs les plus autonomes et productifs. Thibaut Petit rend compte de l'évolution de ces structures vers une logique d'entreprise. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la productivité. Tout est fait pour réduire les charges et engranger des bénéfices, mais sans que les travailleurs n'en voient la couleur. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Elle est où la convergence des luttes ? Le journaliste rencontre une victime de ce système, Sophie, qui vient d'être virée d'un ESAT car, je cite, « elle n'est pas adaptée au poste ». Je me suis posé la question pendant ma lecture. La majorité des travailleurs entendus par le journaliste, en tout cas dans ma partie, sont des personnes avec un handicap léger parce que plus autonome. Du coup, où sont les autres ? Si les ESAT ne prennent plus les personnes avec un handicap plus lourd, quelle structure les accompagne ? À ce stade, on se dit qu'il y a forcément un moyen d'empêcher cette exploitation. Ben, c'est pas si facile. Le journaliste Thibaut Petit relate le calvaire des personnes handicapées, des parents, des aidants, qui trouvent porte-close auprès de l'État, des ESAT, ou même parfois des associations de défense qui sont aussi très souvent les associations gestionnaires des ESAT. Je sors un peu du livre, mais j'avais assisté à une table ronde à la fête de l'écologie à Nantes le mois dernier sur la question du handicap et de l'inclusivité. Et les intervenantes étaient pour la plupart des parents d'enfants handicapés, et la phrase qui revenait souvent, c'est qu'ils avaient dû se mettre à défoncer des portes, plutôt que de toquer et attendre gentiment la réponse. On retrouve la même chose ici. Les personnes handicapées doivent évoluer dans un monde valide qui les intègre au compte-gouttes sans adaptation réelle. Et l'ESAT en est un parfait exemple. Une structure qui est censée proposer un travail adapté finit par être dans la même mouvance validiste que le milieu ordinaire. Et c'est une double peine, parce que j'ai appris dans ce livre qu'en plus, les ESAT n'ont pas été créés pour être une fin en soi, ce sont des structures d'insertion. L'idée, c'est d'habituer les personnes avec un handicap à des rythmes de travail pour pouvoir ensuite être embauchées dans les milieux dits ordinaires. Sauf que, selon les études citées, entre 0,5% et 2% des personnes handicapées accèdent à ce monde du travail ordinaire. L'aspect temporaire et formateur, et je mets des guillemets, permettrait donc de justifier la paye de misère, les cadences et les tâches, parce que c'est pour leur bien et c'est du social. Bon, maintenant que vous êtes bouillant, je vais laisser la parole à Guillaume Brochet pour la deuxième partie. Mais vous aurez donc bien compris, enfin en tout cas moi c'est ce que j'y ai lu, que même si c'est dans certains états ça se passe beaucoup mieux, que le travail est plus gratifiant et le management moins dégueulasse, c'est le concept même des ESAT qui est à interroger. Qu'est-ce qui justifie que l'on refuse le salariat à des personnes handicapées et qu'on préfère les sous-traiter plutôt que les embaucher en emploi direct ? Guillaume, j'ai fini ma partie sur une phrase d'un rapport du Sénat qui expliquait pourquoi les établissements en arrivaient à sélectionner les travailleurs les plus productifs. Est-ce que tu as la réponse à apporter dans la suite ?
Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, merci. Alors c'est une grande première pour moi, l'arpentage, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est la première fois que je pratique et c'est quand même super intéressant. Déjà tu viens de répondre à une question qui est à la première page que j'ai eu à lire, qui est la page 71, où l'auteur parle à la personne interviewée, qui est un directeur d'ESAT, parle de l'annonce. Et moi je me suis dit, mais c'est quoi cette annonce ? et je m'étais imaginé des choses, peu ragoûtantes on va dire, je m'étais pas imaginé quelque chose. Je m'étais, même dans mes projections les plus folles, je ne m'étais pas énervé autant. Du coup, maintenant, j'ai la réponse. Comme toi, j'avoue aussi que ce texte, j'avoue que malgré voilà, mon contexte de travail et mon secteur que je découvre, hein, c'est relativement récent, j'ai appris des choses. Voilà, que j'ignorais. Malheureusement, ça a peut-être venu aussi donner une réalité à sur certaines représentations que je pouvais avoir, c'est-à-dire que ce n'est pas un secteur très enviable, ou, dans sa globalité en tout cas, a priori. Et effectivement, la partie que j'ai eu à lire va plus loin. Et tu as bien résumé, je pense, cette première partie, parce qu'on voit... qu'a priori il y a eu une évolution dans les ESAT et qu'aujourd'hui les ESAT, alors moi la partie où j'ai eu le journaliste donne la parole surtout à des directeurs, là on a la parole des directeurs et on se rend compte que ce sont des chefs d'entreprise, pour pas dire des capitaines d'entreprise. Alors j'imagine qu'il y a un petit peu de parti pris dans la rédaction, que eux-mêmes les personnes interviewées se défendraient, mais on sent quand même que ce sont des chefs d'entreprise, notamment d'industrie, hein, comme on peut se les imaginer en tout cas. Et la première chose qu'on se rend compte, c'est que du point de vue de l'ESAT, du point de vue de l'établissement, du point de vue de l'entreprise, on a affaire à des entreprises quand même qui sont pour la répétition, dans des fortes logiques d'entreprise. Hein, Il est question de mise en concurrence, y compris avec des entreprises du secteur ordinaire. Il est question de rentabilité, de productivité, de notion de marque. C'est-à-dire que, de mémoire, à un moment, un ESAT produit un compost bio. Hein, apparemment, ça aussi, ça a été une petite découverte, mais comme le texte, mais que ça ne pesantit pas trop, mais que les ESAT sont très présents sur le bio. Voilà, je l'ai découvert. Mais il ne développe pas plus. Il est question aussi de concentration horizontale, puisque sur certains modes de production, quasiment toute la chaîne de production est représentée. Donc ça, déjà, ça a été une découverte, parce que je me disais spontanément que ce n'est pas le but d'un ESAT. En tout cas, ce n'est pas le but affiché, hein, même a priori encore aujourd'hui aux yeux de la loi. On a affaire à des entreprises fortes, concurrentielles, quelque part fières de l'être, qui le revendiquent. Ça c'est ce qui m'a d'abord frappé, hein, avec, je cite un exemple, avec l'abandon d'ailleurs carrément de certains secteurs qui ne sont pas ou peu rentables parce qu'à faible valeur ajoutée, par exemple les chaînes de production d'emballage, dont on peut se dire que c'était un petit peu si on connaît des gens, des éducs qui travaillent dans ce secteur, on se dit dans les ESAT on fait ou du traiteur ou de l'emballage. En réalité ce sont des secteurs très très peu rentables, donc qui sont de plus en plus abandonnés au profit, en l'occurrence, les exemples qui sont cités dans le texte, par exemple, de la gestion des espaces verts. Mais l'évolution du secteur ne s'arrête pas qu'à cette logique d'entreprise, ou en tout cas, ça découle peut-être de cette logique d'entreprise. Il y a aussi le profil des directeurs, des ESAT, les responsables des ESAT qui sont passés de profil, et c'est le directeur en question qui le dit comme ça, qui sont passés d'un profil d'éducateur au profil de gestionnaire. Voilà. Avec des veilles, du benchmarking, comme on dit, de la veille stratégique, c'est-à-dire que les ESAT sont au courant des marchés, du marché dans lesquels ils évoluent. Voilà. Ils regardent les prix des concurrents, comment ils peuvent se positionner, etc. Donc il y a des vraies logiques aussi d'études de marché, quoi, de pénétration dans le marché, de démarchage de clientèle. Hein. Moi, j'avoue encore une fois là-dessus que j'ai découvert cette logique-là. Et de tout ça, et c'est la partie du texte que je vais lire, insiste beaucoup là-dessus, et ça rejoint ce que tu disais, une forte évolution du profil des travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai pris un passage en note, aujourd'hui en réalité, beaucoup de travailleurs en ESAT sont issus du milieu ordinaire et rentrent dans les ESAT. Comment se fait-il ? Ce sont souvent des personnes que leur expérience professionnelle dans le milieu ordinaire soit révélée, soit accentuée, soit créée, en l'occurrence des troubles psychiques qui peuvent être aujourd'hui considérés comme handicap. Et donc, ils sortent du système ordinaire. Et par contre, ça reste des travailleurs et des travailleuses plus autonomes, ou en tout cas qui ont une expérience dans le milieu, et parfois des diplômés, qui arrivent en ESAT. Donc il y a un presque un jeu de vase communicant. Effectivement, les personnes qui sont accompagnées depuis leur plus jeune âge, notamment en IME, ne trouvent plus de place en ESAT. Les ESAT, ont tout un, dans cette logique d'entreprise dont je parlais, ont tout intérêt à recruter finalement aussi peut-être des salariés, des travailleurs, des travailleuses. Alors, ils ne sont, sont pas salariés au sens du contrat de travail, mais plus performants. Voilà. Et rapidement, donc voilà, à un moment il est dit avant le recrutement en ESAT, c'était essentiellement des jeunes de l'IME, 70 à 80%. Maintenant, ce n'est plus le cas, on est sur du 40%, donc dans un IME de Bretagne, un ESAT, pardon, de Bretagne. On recrute de plus en plus en milieu ordinaire, remarque le directeur. L'ESAT a ouvert son recrutement à Pôle emploi et aux missions locales, ces agences chargées d'aider les jeunes à trouver un job. On leur a demandé de nous envoyer des candidatures. On va chercher des gens qui ne pensent pas forcément à nous. Qui sont-ils ? Pour beaucoup, entre guillemets, des handicapés psychiques, bipolaires, dépressifs, phobiques, dont la maladie s'est aggravée ou déclarée à l'âge adulte. Souvent, ils ont décompensé à cause du boulot, du stress, de la drogue ou de traumatismes dans leur vie personnelle. Ils ont une expérience dans le milieu ordinaire, une voiture et des aptitudes professionnelles. Depuis que la France a reconnu le handicap psychique en 2005, les ESAT accueillent massivement cette population, mais pas que. Plus loin, il est aussi dit que de plus en plus, les ESAT s'intéressent à des populations loin de l'emploi, comme on dit, c'est-à-dire les jeunes issus de quartiers prioritaires, qui peinent à trouver, à pénétrer le marché de l'emploi. Je parle volontairement comme un économiste, ce qui me fait très bizarre. Et il y a même cette phrase un peu choquante où le directeur parle des qualités des éducateurs. Et niveau encadrement, poursuit Franck, il faut des moniteurs qui ont connu les quartiers, parce que à un moment, il faut rentrer dans le chou. Il s'arrête et réfléchit. Enfin, il faut être bienveillant et structurant. Bon, moi, ce que j'ai retenu de ça, et là, j'avoue que c'est une vraie grande découverte, mais qui finalement me paraît logique par rapport à la logique d'entreprise forte que promeut ces deux directeurs, que le travail au global produit du handicap, ce qui n'est pas étonnant. Le burn-out est une maladie professionnelle, et j'imagine bien que les conséquences du burn-out peuvent être des maladies psychiques, mais que c'est que le capitalisme, là, son mot, est très fort pour recycler finalement ce qu'il produit lui-même. Et par contre, je n'ai pas la réponse définitive à ta question. Que deviennent les personnes pour qui étaient faites les ESAT, a priori, en tout cas, si on se dit, insertion, autonomisation par le travail, en tout cas, la logique semble être aujourd'hui, non, plutôt travail à bas coût, et plutôt réinsertion des personnes qui ne sont plus adaptées au travail actuel. Et ça pose pas mal de questions sur le travail.
Ça répond un peu aux interrogations que j'avais en commençant ma partie, parce que je savais pas ce qu'il y avait eu avant, mais c'est vraiment l'intuition que j'avais. On se rend compte qu'on perd le côté médico-social quand on rentre dans toutes ces logiques entrepreneuriales. Et je trouve ça vraiment intéressant, son travail à Thibaut Petit, parce qu'il a vraiment brossé un petit peu. Il a des entrevues avec des gens sur un peu toute la chaîne. Toi, tu avais directeur des SAT, mais moi, j'avais aussi des PDG d'entreprises qui font appel à des ESAT. Donc ça fait une bonne transition. Alors ça va devenir un gimmick à force, parce que comme d'habitude, j'ai été scandalisée par ce que j'ai découvert dans ce bouquin. Je pense que ça a été une lecture aussi douloureuse pour mes collègues que pour moi, parce que j'ai passé mon temps à lever les yeux au ciel, à lâcher des soupirs exaspérés et des « non mais putain, sérieux !» Donc vous avez fait un bel état de l'art déjà du scandale ESAT, mais j'ai quelques trucs à ajouter sur lesquels s'est focalisée ma partie. J'ai commencé page 135 et directement avec un bon gros scandale. On va se focaliser là sur la façade éthique que se construisent certaines entreprises qui sous-traitent une partie de leur travail en ESAT. Ça démonte un peu un truc dans mon imaginaire, parce que dans mon quotidien, j'essaye d'acheter local, éthique, auprès de marques françaises, que ce soit des fringues, des cosmétiques ou autres. Et ces marques utilisent justement assez souvent comme argument de vente éthique qu'une partie de la production ou du conditionnement est faite par des ESAT. Mais en fait, je découvre par ma lecture que c'est souvent une sorte d'éthique washing. Alors Thibaut Petit rencontre donc dans son enquête Éric Darmagnac, le PDG de la société Handicado. Et ce dernier nous explique sans trembler des genoux comment il se fait masse de blé en vendant de la papeterie reconditionnée par des travailleurs et des travailleuses handicapées. Acheter éthique et solidaire, qu'ils disent sur le site. Bon, moi je trouve déjà que ça pue un peu l'éthique washing, mais on va leur laisser le bénéfice du doute, le PDG est certainement un grand philanthrope. Ah bah non, parce que si on regarde un peu plus loin, la philanthropie fond comme neige au soleil. Je vous lis Textos qui écrivent sur leur site un peu plus bas. Commander sur Handicado, c'est réaliser un geste fort en direction de l'insertion des travailleurs en situation de handicap. C'est aussi la possibilité d'économiser jusqu'à 11 000 euros sur votre contribution AGFIP si vous ne respectez pas l'obligation d'emploi de 6% des personnes avec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors là, le geste fort en direction des travailleurs handicapés ressemble plutôt à un grand doigt d'honneur. Explique-moi comment tu travailles à l'insertion en milieu ordinaire tout en donnant une porte de sortie aux entreprises pour ne pas employer des personnes en situation de handicap. Dans le genre serpent qui se mord la queue, on a aussi un petit problème démocratique que soulève l'ouvrage Handicap à vendre. Une phrase résume assez bien la situation. Thibaut Petier discute avec des membres de l'AMI, qui est l'Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés. Et François, un des membres, nous dit ça. Ouvrez les guillemets. Qui peut défendre quand ça se passe mal dans les ESAT ? Les associations, elles sont toutes ou presque gestionnaires de structures. Au sein des structures, il n'y a aucune vie démocratique. Fermez les guillemets. Parce que vous ne pouvez pas voir les petits guillemets que je fais dans les airs. Il est donc presque impossible de trouver du soutien pour dénoncer les conditions de travail. C'est un peu comme si tu allais te plaindre de ton patron à ton patron, en fait. Et ça, ça découle aussi du statut des travailleurs et travailleuses handicapées. Lilia t'en a un petit peu parlé, et Guillaume aussi, mais je vais revenir dessus parce que c'est un élément qui m'a frappé direct dès le début de ma lecture, c'est que les travailleurs et travailleuses sont qualifiés d'usagers-usagères, comme si elles étaient bénéficiaires d'un service public, usagers de la piscine municipale ou usagères de la médiathèque, alors qu'en vrai, on est quand même loin de l'activité de centre de loisirs. C'est du travail à la chaîne, en usine, de la blanchisserie, de la manutention à une cadence élevée et sur des plages horaires équivalentes à un emploi en milieu ordinaire. Il y a donc une énorme dissonance entre les éléments de langage, le statut juridique et la réalité du travail pour les personnes en situation de handicap. Leur activité n'est pas régie par le code du travail. Bah non, c'est pas du travail. C'est un service qu'on leur rend de leur donner une activité. On va pas en plus leur payer leurs heures sup et leur permettre de monter des syndics pour qu'elles se plaignent. Désolée, je suis un peu cynique, mais déjà que le code du travail en milieu ordinaire, c'est pas la panacée, découvrir qu'il y a des gens qui se tuent au travail sans un minimum de droits et de rémunération, ça me tend un petit peu les nerfs. Tous ces éléments se font donc vraiment poser la question de la raison d'être des ESAT. Est-ce qu'on est toujours sur de la réinsertion par le travail ? Je commence à avoir un petit doute. Le livre de Thibaut de Petit termine tout de même sur une note un peu plus teintée d'espoir avec des pistes d'amélioration et des débats qui sont en cours dans les milieux des ESAT et des associations concernées. Salarier les usagers et usagères, par exemple, avec un statut de salarié protégé pour éviter la tentation de sélection et de préserver l'activité médico-sociale. Mais cette idée ne fait pas consensus. La question se pose de savoir qui va payer les salariés, l'État ou les assos. Est-ce que ça implique de pouvoir travailler les jours fériés, de faire des heures sup ? Ce qui ferait encore gagner du terrain des objectifs de production et des objectifs financiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup de chemin qui reste à parcourir. Je termine sur une petite métaphore de randonnée pour clôturer cet arpentage. Cécile, tu n'as pas participé à l'arpentage parce que ce livre, tu le connais sur le bout des doigts. Comme disait Lilia, tu as accompagné Thibaut Petit sur l'écriture de son ouvrage.
Pas du tout. En fait, Thibaut Petit nous a, en fait, il a envoyé son ouvrage au CLE, puisque le CLE fait partie des collectifs anti-validistes, donc à bien distinguer des associations gestionnaires d'établissements. Ouais. Hein. Nous, on s'est créé justement contre ces associations gestionnaires pour défendre, en fait, les droits des personnes handicapées. Et ça faisait longtemps, en fait, hein, qu'on dénonçait la situation, l'existence des ESAT sans du tout être entendu. Puisque, comme vous l'avez un peu dit, hein, comme tu l'as dit, voilà, il y a une grande indifférence de la gauche, des syndicats progressistes. Et donc, ça faisait très longtemps qu'on le dénonçait. Donc, quand son ouvrage, avant qu'il paraisse, nous l'a envoyé, en fait. Et moi, j'en ai fait un compte-rendu qui a été publié deux fois, en fait, dans la revue Dièse, dans Mediapart aussi, vous pouvez le trouver encore. Voilà, mais je ne l'ai absolument pas accompagné sur l'écriture hein, de cet ouvrage. Cet ouvrage, ben, pour nous, c'était la confirmation de façon étayée de ce qu'on dénonce hein, et de ce que d'autres ont dénoncé bien avant nous. Et ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est que ben, au moins, il y a on donne la parole là aux ouvriers et aux ouvrières. Alors moi, je dirais plus que travailleurs et travailleuses, ce sont des ouvriers et des ouvrières, et c'est pas un gros mot, parce qu'ils font vraiment du travail, un travail souvent à la chaîne, hein, de sous-traitance. Hein. Moi, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec ce que vous avez dit, c'est que il faut pas croire que les ESAT c'était bien au départ, que ça a été créé pour favoriser l'insertion des personnes handicapées, et que par une sorte de dévoiement lié à l'imposition d'une doctrine néolibérale, vous voyez, ça aurait perdu le sens médico-social, et on serait passé d'une logique de protection à une logique de rentabilité. Ça, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que dans les années 70, vous voyez, il y avait des personnes handicapées militantes, notamment qui avaient créé un journal qui s'appelait Handicapé Méchant, qui ont fait des grèves dans les TAT, c'est les ancêtres des ESAT, contre les associations gestionnaires. Donc les associations gestionnaires, ce sont des associations qui en fait créent ce système, hein, c'est-à-dire exploitent ces ouvriers, ces ouvrières dans les ESAT, tout en se prétendant représentante des personnes handicapées. Et c'est un peu ce qu'il dit Thibault Petit, c'est-à-dire que quand les travailleurs veulent se défendre, on leur dit allez voir les associations, et ils se rendent compte que les associations, c'est celles-là même qui organisent leur ségrégation et leur exploitation. Ces associations, c'est l'APF, il faut les citer, hein. Il faut que vos auditeurs comprennent en fait. Hein. L'APF, une API, la page, la DAT, etc. Et en fait, ces luttes des travailleurs handicapés dans les CAT, qui deviendront les ESAT, elles existent depuis le début. Et depuis le début, c'est un système dégueulasse. C'est-à-dire que, vous voyez, les militants des années 70 appelaient les CAT les ghettos d'handicapés, les usines-prisons. Ils avaient fait des alliances avec les travailleurs prisonniers, vous voyez, le GIP, le groupe information prison que soutenait Michel Foucault, vous voyez, parce que eux non plus n'étaient pas payés. Non plus n'avaient pas les droits du travail. Vous voyez ? Donc il ne faut vraiment pas penser que ça a été fait au début dans des logiques de protection et que c'est un dévoiement. L'une de vous disait, on se demande bien avec les critères de rentabilité croissant, où sont les personnes qui étaient faites pour les ESAT ?
Ouais.
Mais faut quand même réfléchir deux secondes. En fait, est-ce que ce système que vous avez décrit, hein, on est tous d'accord que c'est de l'exploitation, une ségrégation et une privation de droits. Est-ce que pour vous, ce serait légitime pour des gens qui ont un autre handicap qu'un handicap psychique? Alors moi, je vais vous dire en fait. Hein, moi, vous voyez, je suis née en 77, et ben moi, par exemple, vous voyez, moi, j'étais destinée à l'ESAT, puisque à mon époque, on a refusé à mes parents l'école ordinaire. J'étais destinée d'abord à l'IME. Et hier comme aujourd'hui, quand vous entrez en IME, vous voyez, et ben vous allez avoir des associations, les associations gestionnaires qui gèrent les IME sont les mêmes qui gèrent les ESAT. Et il le décrit, Thibault Petit, il y a un effet de filière qui fait qu'ils vont recruter directement dans les structures. Alors moi, je vais vous dire, de l'autre côté du fil, vous avez une personne de la génération d'avant qui était destinée à l'ESAT.
D'accord.
Voilà. Et si mes parents n'avaient pas eu le capital social et culturel qu'ils avaient, j'aurais été dans ces institutions et j'y serais. Alors, je pense qu'il ne faut pas être pris au piège de la hiérarchie sociale des handicaps. Hein, de dire, pour certains types de handicaps, c'est légitime, hein, que les gens ne soient pas payés, qu'ils soient exploités, qu'ils n'aient pas les droits du travail. Et puis, pour des handicaps dits plus légers, je pense que c'est un non-sens, un handicap lourd et léger, ce serait moins légitime. Non. Et ensuite, comme je vous le disais, pourquoi ce système a été créé? Il faut voir que ce système, il a été créé en accord entre l'État, les associations gestionnaires. Ces associations gestionnaires, elles font toutes les lois sur les handicaps, hein, depuis 45 en tout cas. Et le patronat. Ça a été créé pour faire baisser les quotas d'embauche. Vous savez, les quotas d'embauche des entreprises de plus de 20 salariés, ils sont de 6%. Mais ils étaient de 10%. Vous voyez, c'était une conquête des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et bien, en échange de ce système, des actes qui permet, hein, comme vous l'avez expliqué, aux entreprises d'externaliser et de déroger à l'obligation d'emploi direct de 6%, on les a baissés de 10 à 6%. Parce que le patronat ne voulait pas en fait embaucher des personnes handicapées. Donc c'est le MEDEF qui a négocié avec les associations gestionnaires, ces mêmes associations gestionnaires, vous voyez, qui organisent notre ségrégation et notre exploitation, je ne vais pas les reciter, mais qui ont pu capter le discours public sur le handicap en se présentant comme défenseurs des personnes handicapées. Mmh. Et l'autre point, vous voyez, que je voudrais souligner, vous avez dit, hein, c'est vrai que quand on lit ce livre, on est tout à fait frappé du fait que ces directeurs, ces cadres des actes soient complètement décomplexés. Et donc, on arrive à dire des trucs, mais hallucinants, quoi, sur la main-d'œuvre, à quel point elle est docile, à quel point elle travaille mieux que les travailleurs ordinaires qui font chier parce qu'ils demandent des droits, etc. Mais il faut voir pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces patrons, c'est pas seulement d'afro-capitalistes, c'est des gens qui ont complètement intégré le paternalisme. Mais le paternalisme, c'est l'esprit qui domine ces associations gestionnaires. C'est pas qu'ils sont seulement capitalistes, ils sont absolument paternalistes. C'est-à-dire que ces travailleurs, ces travailleuses, ces ouvriers et ouvrières, ils sont en permanence infantilisés. Vous voyez, et d'ailleurs, on parle toujours d'eux à leur place, ou d'elles à leur place. Je sais plus laquelle d'entre vous disait qu'elle avait assisté à une table ronde autour du handicap, et il y avait des parents d'adultes handicapés.
C'est des enfants, d'accord.
Parce que, oui, il est très courant que des personnes handicapées adultes soient représentées par leurs parents. Mmh. Il est très courant que des personnes handicapées soient représentées par des gens de ces associations gestionnaires. Eh bien, je ne sais pas, moi, prenez une autre minorité dominée, remplacez personne handicapée par femme, et vous allez voir ce que ça fait. Mmh. Et ça, si vous voulez, on le retrouve dans le livre. C'est-à-dire que dans ces associations gestionnaires, le paternalisme, l'infantilisation est complètement naturalisée. Et c'est pour ça qu'ils pensent que ce qu'ils disent, en fait, ils le disent de façon très décomplexée, parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient des gentils employeurs charitables. Mmh. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important, et c'est pour cela que c'est pour cela qu'il faut absolument des associations qui soient pas des associations gestionnaires, qui soient des gens qui sont concernés directement et qui soient des gens qui luttent contre ce système du travail dit protégé, mais qui est en fait un système ségrégé. Eh bien, se manifeste aujourd'hui.
Eh ben, merci beaucoup pour ce petit rajout. C'est là qu'on se rend compte qu'on se heurte à une difficulté avec l'approche par l'arpentage d'un sujet qu'on ne connaît pas. C'est qu'il nous manque un énorme background historique pour comprendre en fait ce qu'on a lu. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on t'ait avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup en tout cas pour
merci
tout
vous.
Ça. Donc là, on se rend compte que... L'approche du handicap par le sujet du travail, c'est quand même très spécifique, mais que ça ouvre des portes pour parler du sujet de manière plus transversale. T'as déjà un petit peu parlé de la prise de parole des personnes handicapées, de tout ce paternalisme qui se retrouve, j'imagine, au quotidien, dans la vie des personnes concernées. Et du coup, on va se permettre d'aller un peu plus loin avec nos invités sur la partie interview pour donner des pistes un peu plus larges de réflexion et d'exploration autour du sujet du handicap. Et juste avant, on va se laisser décanter toutes ces informations avec le morceau Release Me de Mandy Harvey.
Vous êtes de retour dans l'émission Les Arpèdes sur Prune, diffusée chaque premier samedi du mois pour votre plus grand bonheur. Ce mois-ci, donc, on parle handicap et travail avec un essai à charge contre les ESAT, avec deux invités, Guillaume Brochet du festival Handiclap, que vous avez déjà entendu pendant l'arpentage, et nous accueillons aussi Cécile Morin, qui a fait une partie arpentage et réexplication du sujet. Merci beaucoup pour ça, parce que ça remet énormément de choses à leur place, et ça fait du bien. Cécile Morin, donc tu es porte-parole du collectif Clé, donc je t'ai présenté un peu trop rapidement au début. C'est un collectif militant et anti-validiste sur la question de l'accès aux droits des personnes handicapées et qui fait un travail de dingue pour visibiliser leur lutte. Donc le Clé, je le redis, c'est l'acronyme de Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et donc tu es également autrice, Cécile Morin, d'un compte-rendu détaillé sur l'enquête qu'a faite Thibaut Petit. Et donc tu pourras nous apporter des précisions et des connaissances détaillées sur ce sujet-là dans l'interview. Donc merci encore d'avoir accepté notre invitation, Guillaume Brochet et Cécile Morin. Ça nous fait très plaisir que vous soyez présents. Donc juste pour les auditrices, est-ce que Cécile Morin, tu pourrais nous rappeler rapidement les actions du CLE ? Est-ce que notamment vous agissez auprès d'élus ou des législateurs ?
En fait, les actions, c'est très simple. Hein. C'est d'abord la lutte pour l'autoreprésentation. Ben voilà, comme on l'a dit, c'est vrai que notre gros problème, c'est les associations gestionnaires, parce que les associations gestionnaires, elles ont en fait le statut officiel hein, de représentantes des intérêts des personnes handicapées. Donc en fait, elles vont décider, elles vont faire toutes les lois, celles qui font toutes les lois en fait. Et donc, vous voyez, les lois, ces lois, par exemple, voilà, quoi, qui font que on en est là aujourd'hui, quoi, hein, en termes d'accessibilité et puis de ségrégation. Et parce que les EHPAD, c'est un élément de la ségrégation des personnes handicapées, mais elles gèrent aussi des établissements, vous voyez, qui font que les enfants, par exemple, sont placés dans des établissements où ils n'ont presque pas accès à la scolarisation, etc. Donc l'idée vraiment rien sur nous sans nous, quoi. C'est vraiment de se représenter nous-mêmes et qu'on ne soit pas représenté par des parents ou par des personnes laïques qui prétendent agir en notre faveur tellement ils sont charitables. Le deuxième volet, c'est de faire appliquer la Convention internationale de l'ONU, des droits des personnes handicapées. Il faut savoir que les EHPAD ainsi que les placements dans tous les autres établissements sont considérés par l'Organisation des Nations Unies comme de la ségrégation. Et la France, elle est vraiment pointée du doigt pour cela, puisqu'il y a vraiment une très forte proportion de personnes handicapées qui sont en dehors de la société, dans les EHPAD, dans les IME, dans d'autres foyers. Et ça, c'est tout à fait contraire aux droits les plus élémentaires. La Convention des Nations Unies, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les personnes handicapées ont le droit de choisir avec qui elles veulent vivre quand elles sont adultes. Il paraît absolument évident, hein, c'est un droit pour tous. Or, beaucoup d'entre elles sont placées dans ces institutions. Or, il existe une alternative, hein, qui est une alternative qui est la norme en termes de droit international. C'est le fait que, au lieu que l'État finance les associations gestionnaires, que l'État finance en fait les besoins des personnes pour qu'elles vivent avec les aides dont elles ont besoin, mais pour qu'elles vivent comme elles l'entendent. Mmh. C'est très important parce que les institutions, non seulement sont des lieux d'exploitation, de ségrégation et de privation de droits, mais ce sont aussi des lieux de très grande violence, puisque les personnes handicapées n'ont pas la parole. Vous l'avez vu dans le livre, les personnes en EHPAD n'ont absolument pas droit à la parole. Mmh. Et souvent, elles sont logées dans des foyers attenants. Et donc, par exemple, imaginez que vous viviez toute votre vie dans une collectivité forcée, avec les 30 mêmes personnes. Ça veut dire, par exemple, qu'après une séparation amoureuse, il n'y a pas de séparation physique. Et étant donné que ces personnes n'ont absolument pas la parole, elles n'ont pas de droit, quoi. Donc, si personne ne va venir leur demander quoi que ce soit, eh bien, en fait, évidemment, hein, ça conforte et ça multiplie tous les risques de violence. Et donc, la désinstitutionnalisation, l'application du droit international, c'est un volet très important de notre action. Et puis, le troisième, c'est vraiment la lutte contre le validisme, c'est-à-dire faire connaître le validisme, qui n'est pas seulement une question de discrimination et d'oppression, mais qui est vraiment, vous voyez, qui a des effets beaucoup plus pernicieux, hein, qui est par exemple le fait que, on considère les personnes handicapées en les pourvoyant de valeurs morales, par exemple, vous voyez, en leur prêtant des vertus de courage, etc., enfin, pour les essentialiser, qu'on fasse des actions, vous voyez, qui soient séparées, enfin, qu'on reproduise de la séparation tout le temps. voyez, voilà. Par exemple, en utilisant le préfixe Andy à toutes les sauces, quoi. Comme si, vous voyez, là, par exemple, moi, je suis pas en train de vous Andy téléphoner, quoi. Je suis pas en train d'Andy parler. Voilà, je parle, je vous téléphone. Et simplement, ben, la condition handicapée, c'est largement une assignation sociale, en fait. c'est-à-dire de multiples obstacles qui nous sont faits. Enfin, rien que de dire ça, vous voyez, ça tombe sous le sens quand on l'explique, mais le validisme est tellement naturalisé que, eh bien, on va le retrouver partout. Donc, voilà, déjà, ces actions, c'est déjà beaucoup. Et je voudrais juste dire qu'il n'y a pas que ce collectif, il y a d'autres collectifs antivalidistes qui se sont constitués, justement, pour essayer de faire contrepoids aux associations gestionnaires. Et nous, ce qu'on déteste, c'est qu'on dise les associations en parlant des associations de personnes handicapées. Vous voyez, c'est comme si on disait les syndicats pour parler du MEDEF et de la CGT. C'est-à-dire qu'on est dans des positions très complètement antagonistes. On lutte, nous, contre les assos gestionnaires.
Tu l'as un petit peu mentionné, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, pendant la préparation de l'émission, nous, d'aller voir du côté de l'international. Tu penses qu'on a un retard en France ou en Europe, et si retard il y a, pourquoi
c'est la France,
penses,
en fait.
Ouais, c'est la France.
En fait, quand on dit le retard, vous voyez, on semble penser que le législateur s'achemine vers une sorte de bienveillance croissante. Mais non, en fait, c'est des rapports de force, des rapports de lutte. C'est-à-dire que, en fait, dans les pays qui ont désinstitutionnalisé, les pays qui ont obtenu des droits, c'est les pays où les luttes handicapées ont abouti. Les luttes handicapées, il y en a eu en France dans les années 70, je parlais des grèves dans les CAT, etc. Ben, nous, on fait ça, quoi. On lutte contre les assos gestionnaires, on lutte, mais pour l'instant, on ne gagne pas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en est là en France? Ben, c'est vraiment largement le fait du rôle de ces assos gestionnaires. Ça n'existe pas dans tous les autres pays. En Suède, ils ont fermé toutes les institutions, vous voyez, même pour des gens polyhandicapés, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vivent tout seuls, bien sûr que non. Ça veut dire qu'ils vivent où ils veulent, ces gens, ils vivent où ils veulent, mais ils ont des aides, ils ont des éduques, ils ont des aides humaines, etc. Mais c'est eux qui décident, en fait. Et pourquoi est-ce que la Suède a pu le faire? Parce que l'État gérait directement, vous voyez, n'avait pas sous-traité. En fait, le problème, c'est, si vous voulez, l'État considère que le handicap, c'est un problème médical. Et que ce n'est pas un problème politique. En fait, le handicap, c'est une question politique. C'est une question de domination. Et du coup, l'État a sous-traité depuis fort longtemps, a créé un secteur, qui s'appelle le secteur médico-social, et a sous-traité la question à des associations, ces fameuses associations gestionnaires, qui continuent à opérer de la ségrégation, à placer les gens dans des institutions, et à toucher de juteux subsides de l'État. Les ESAT, enfin, vous avez vu, c'est financé par l'État, quoi. Et ces associations gestionnaires, mais pourquoi elles continueraient pas? En plus, vous voyez, elles ont le statut de représentante des personnes handicapées, ce qui veut dire, par exemple, qu'elles siègent dans les commissions MDPH. C'est-à-dire qu'elles décident aussi du destin individuel. Elles vont décider d'orienter tel enfant dans un IME. Elles vont décider d'orienter tel travailleur, telle travailleuse dans un ESAT. Et donc, tant qu'elles seront là, tant qu'elles auront ce pouvoir, eh ben, voilà, on ne pourra pas vraiment gagner notre émancipation.
Je rappelle juste pour nos éditeurs et nos auditrices, MDPH, c'est les maisons départementales des personnes handicapées. C'est les lieux uniques d'accueil, d'information, d'accompagnement, d'orientation et de reconnaissance des droits pour les personnes handicapées et leurs familles. Et là, vous entendez très bien que j'ai le lexique du livre sous les yeux. Il nous reste quelques minutes pour l'interview. C'est dommage parce que moi, il y a plein de trucs qui me sont venus. Lilia, tu avais une petite question en plus?
Tu disais que la lutte des militants sur cette question-là, elle est très invisibilisée. Est-ce qu'il y a quand même une amélioration à ce niveau-là? Est-ce que le CLE ou d'autres collectifs de lutte antivalidiste sont davantage invités dans les médias ou sur les tables rondes, etc., pour parler de ces questions-là?
Oui. Bah, en fait, par exemple, le terme validisme, il n'existait pas du tout dans l'espace public il y a 5 ans. Et c'est sûr que c'est les collectifs antivalidistes qui l'ont... Oui, qui l'ont porté, quoi. En fait, il y a vraiment un enjeu fort, c'est d'imposer, d'imposer de nouveaux objets, de politiser le handicap, voyez, par exemple, en faisant connaître le validisme, ça, c'est très important. Et du coup, ça, on réussit à le faire parce qu'on est très sollicité par les journalistes quand ils font un sujet sur le handicap. Ben, très souvent, ils interrogent maintenant, bon, toujours les assos gestionnaires, mais aussi des collectifs anti-validi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça progresse. Et puis aussi, et ben, vous voyez, dans le sillage de toutes les autres luttes d'émancipation, de MeToo, etc., ben, quand on commence à déconstruire l'arbitraire, vous voyez, des normes qui organisent la domination d'une minorité, ben, on passe très vite du féminisme à l'antivalidisme, par exemple, hein, ou, vous voyez, à la LGBTQ+phobie, au validisme. Et ça, bon, ça veut dire que la jeune génération, quand même, de personnes handicapées, ben voilà, c'est pour là maintenant, elle peut avoir des ressources que ma génération n'avait pas, quoi.
D'accord.
Et donc pour terminer cette interview, c'est déjà la fin malheureusement. Peut-être que Guillaume, tu as une question, un truc à rajouter
Une proposition. Moi, je serais très curieux de pouvoir continuer à échanger avec le Clé, hein, dont que je ne connaissais pas. Voilà.
Ok, et Cécile et Guillaume aussi d'ailleurs, est-ce que, pour terminer, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux personnes valides pour être plus inclusives dans leur vie quotidienne, mais même pour participer aux luttes en tant qu'alliés?
Oui, ben, alors, y a déjà, allez voir sur le site des collectifs anti-validis, sur le site du Clé, sur le site des Dévalideuses, qui est un collectif anti-féministe, le site de Cléautiste, qui est un site anti-validiste de personnes directement concernées par les formes d'autisme, ou sur le site d'Andisocial. On a énormément produit de textes, de vidéos, on a fait des podcasts. Alors, un podcast qui a été créé, enfin, qui est passé le l'an dernier sur France Culture, qui me semble aussi très, très bien pour rentrer dans le sujet, c'est le podcast, c'est l'émission, le documentaire de Clémence Alézard et Asia Khalid, qui s'appelle Handicap, la hiérarchie des vies, en 4 épisodes, où vraiment là, je pense que des personnes qui ne connaissent pas du tout vont vraiment apprendre des choses. Voilà, donc bah, rien que ça, il y a énormément de textes, de ressources, et sur si vous voulez en savoir plus, sur l'histoire des luttes, notamment dans les CAT ou dans les ESAT, il y a des textes qu'on a mis nous sur notre site sur l'histoire de ces luttes dans le travail, en fait. Notamment un texte que j'avais écrit parce que j'ai des recherches en histoire, mais voilà, sur ces luttes handicapées dans le travail, ça peut être tout à fait complémentaire.
Eh ben, tu nous devances carrément, parce qu'on allait passer à la partie librairie où justement on fait une petite compile de ressources culturelles et de lecture de tout ça. Donc ben, on lance tout de suite la partie librairie.
Où est le livre ? À la bibliothèque. Et la musique danse ?
À la discothèque.
Et les discothèques ?
C'est bébé.
Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu de l'arpentage et de nous avoir éclairés sur la question du handicap et du travail dans les ESAT. Et bienvenue à tous dans la librairie des Arpètes. Donc, on a déjà commencé avec tes références, Cécile, merci beaucoup. Et on va continuer avec des noms de films, de bouquins, d'expos, de bandes dessinées. Je reprends juste rapidement les références du livre. C'est « Handicap à vendre » de Thibaut Petit. Et c'est édité aux Arènes.
Pour commencer, moi, je voulais parler d'un réalisateur nantais qui s'appelle Bruno Métac, qui, eh bien, je vous invite à aller faire un tour du côté de sa filmographie, et notamment son court-métrage « Accord dansant », qui raconte l'histoire de jeunes en situation de handicap dans un IME... IME, à Nantes, qui participe à une création chorégraphique avec des danseurs burkinabés, et racontent au jour le jour leurs difficultés avec leur corps dansant. Et c'est le grand prix du jury de la 11e édition du festival Regards Croisés. Donc vous pouvez aussi aller fouiller du côté de la programmation de cette compétition de court-métrage, qui était du coup sur le thème métier et handicap, qui colle bien à notre thématique du jour. Est-ce que Guillaume, tu voulais dire un petit mot pour le festival Handiclap ?
Oui, je veux bien rappeler les dates de l'édition 2023 qui aura lieu du 23 au 26 mars au Parc des Chantiers, donc sur l'île de Nantes. Voilà, deux petits mots. Là, la programmation n'est pas encore finalisée parce que je suis très sensible à ce qui a été dit avant et je sais que je prends la parole alors que je ne suis pas une personne, en tout cas je ne suis pas reconnu et je ne suis pas une personne en situation de handicap, que l'enjeu du festival est aussi d'être accessible. Ça, c'est l'historique, accessible. Alors l'accessibilité, ce n'est a priori, enfin, pour moi qu'un enjeu. Et à une époque où les offres culturelles et artistiques n'étaient pas forcément accessibles à aucun type de handicap, que je pense aussi que vrai dans direction de l'accessibilité, c'est vrai pour l'accessibilité des plus grands nombres. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que être accessible, par exemple, le Falck, le facile à lire, à comprendre, c'est aussi se rendre accessible aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes allophones, aux personnes, on va dire, qui n'ont pas les codes, même si je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de définition, mais voilà. En tout cas, j'ai à cœur dans la programmation aussi, finalement, de moi m'effacer, même si c'est moi qui parle aujourd'hui, et de faire la promotion de la réalité d'artistes qui peuvent être en situation de handicap, et je précise, mais ils sont artistes, avant tout. Voilà. Et en référence, moi, j'aimerais citer un groupe que je n'aurais pas, malheureusement. C'est le groupe Astéréotypie, qui ne sera pas handicap. Handitlab, pardon, qui est un groupe composé de personnes en situation de handicap. Et il y a eu un film sorti sur eux aussi, qui est passé à Cannes, qui, je crois, s'appelle La gloire des dieux, de mémoire. Voilà. Et ils seront, par contre, au Transmusical à Rennes début décembre.
Et ils seront aussi en fin d'émission, parce que c'est notre morceau de clôture.
Merci beaucoup. Et Cécile, vous aviez déjà donné des références, donc on les remettra sur le site de Prune pour que tout le monde y ait accès via le podcast. Est-ce que vous aviez d'autres références à ajouter ? Est-ce que tu avais d'autres références à ajouter, pardon ?
Oui, en fait, je pensais en vous écoutant, il y a une série qui a été diffusée sur Arte, une série argentine qui s'appelle Un mètre vent. Peut-être que vous l'avez vue, c'est une mini-série qui est vraiment formidable. Elle est réalisée, la réalisatrice est elle-même handicapée. Et franchement, vous voyez, c'est pas du tout didactique sur le validisme, etc., mais on comprend tout. Dans le contexte de la société argentine, avec une actrice qui est vraiment géniale. Et là, vous voyez, quand on dit oui en France, etc., on se rend compte en regardant la série à quel point en France on est à des années-lumière, à quel point à quel point l'émancipation, c'est pas encore gagné dans les représentations. Et pour le coup, tout ce dont on parlait, la séparation, la ségrégation, les trucs qu'on fait pour les personnes handicapées ou les personnes handicapées sont mis à l'honneur un jour par an. On se rend compte qu'il peut exister autre chose. Et ça, je crois que c'est aussi un enjeu, parce que quand on parle avec les gens de désinstitutionnalisation, etc., ils ont du mal à forger une vision de ce que peut être une société où il n'y ait plus de ségrégation. Vous voyez, la ségrégation, elle est tellement entrée dans les têtes qu'on on a toujours ce mode de pensée. Et je pense qu'aller voir à l'étranger, comme vous le disiez, c'est pas mal. Et cette petite série argentine, 1m20, je vous la conseille chaleureusement.
Ok, merci beaucoup. On va trop voir ça.
Ah zut, on a perdu Cécile. Eh bien, notre deuxième émission, je t'achève là-dessus, du coup, sur ces petites recommandations culturelles. On espère que ça vous aura plu et donné envie d'en savoir plus, tout comme nous. Un grand merci à nos invités, Cécile Morin et Guillaume Brochet. Merci aussi à Marie Gourdon, psychomotricienne de son métier, qui nous a bien aidé dans la préparation de l'émission, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et bien entendu, merci aussi à Thibaut Petit pour son ouvrage « Handicap à vendre ». Qui a bien secoué nos petits cerveaux d'arpètes. On se retrouve dans un mois, le 3 décembre, toujours à midi, toujours sur Prune 92 FM, et on se laisse sur un morceau au titre très long du groupe Astéréotypie, justement. Et c'est « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Et juste après, nous, ce sera l'émission Coup de foudre. Bye bye tout le monde et bon week-end à toutes et à tous.
Bon week-end.
Merci, au revoir.
Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais.